Alors, qui va à la chasse? À propos de Charles Stepanov, l'animal et la mort, chasse moderne et crise du sauvage, la découverte. Allez, oui, je pense que ça va parler du sujet qu'on a évoqué là. Les chasseurs sont davantage préoccupés des fragilités de la nature qu'on ne le croit généralement. Ils en sont les premiers témoins et leur relation à l'animal n'est pas seulement faite de prédation à l'aveugle. Oh, ça c'est une take intéressante. Après, je connais pas trop la chasse en France, mais de ce que j'entends, c'est vraiment le bordel niveau encadrement. Les places de chasse ou des dates où c'est autorisé. Aussi au niveau du rapport avec l'animal, des quotas et tout, c'est super encadré ici. Après, on n'a pas les mêmes hectares de forêt qu'en France, c'est plus facile à contrôler. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais c'est intéressant ton point de vue, Comise. Merci de l'info. Et merci, Jérémy. Amour et exploitation de la nature. Ah, du coup, là, c'est par rapport à ce que dit Pépin Jouestar, justement. La sensibilité contemporaine à l'égard de la souffrance animale, qui semble de plus en plus partagée, va de pair avec le maintien d'un rapport d'exploitation des ressources naturelles que les mobilisations environnementales ne sont pas encore parvenues à infléchir. On peut supposer que les changements n'aura lieu que lorsqu'il sera vraiment imposé par la catastrophe climatique. Ça, c'est ce qu'on disait au début du stream, en mode, bon, vu qu'il va faire chaud, les choses vont devoir changer. Il semble que plus nous aimons les animaux qui peuplent le monde sauvage, mais aussi leur biotope, plus nous livrons à l'extraction des ressources qui met en question la pérennité de leur reproduction. Attends, quoi? Il semble que plus nous aimons les animaux qui peuplent le monde sauvage, mais aussi leur biotope, plus nous livrons à l'extraction les ressources qui met en question la pérennité de leur reproduction. Ok. C'est intéressant, cette tech. Putain, c'est chiant, je peux pas zioter. Les mots-clés, j'ai dit un truc mauvais. Non, mais tout ce qui est viriliste et tout, ça me fait rire. Je trouve ça... T'inquiète, y a pas de... Le prends pas mal, t'inquiète. C'est juste que je suis pas du tout, moi, dans ces lores-là de virilité. Ce constat est le point de départ de l'enquête sur la chasse que livre Charles Stepanov dans un livre pionnier. Car il se nourrit d'une double expérience ethnographique, celle des peuples autochtones de Sibérie, qui a longtemps occupé l'auteur et a donné lieu à des travaux originaux, celle des chasseurs qui vivent aux confins de la Beauce, des Yvelines et du Perche, terrain que la circonstance lui ont imposé, mais qui s'est révélé une rare fécondité. Intéressant ça, il va parler justement des chasseurs de la Sibérie. Rappel, 70% des animaux sauvages ont disparu ces 40 dernières années, fact. Ouais, clairement, clairement. Si la démarche comparative ne constitue pas le nerf de l'argumentation, elle n'en permet pas moins de rendre compte de pratiques qui se situent dans les périphéries de la métropole parisienne en ne les traitant pas différemment de celles qui sont prises dans un rapport non moderne à l'animal. La représentation la plus répandue chez les amoureux de la nature consiste en effet à opposer d'un côté les pratiques de prélèvement qui semblent être intégrées au fonctionnement des écosystèmes parce qu'elles sont à la fois frugales et limitées par l'arsenal à disposition des chasseurs, et aussi des cueillères, et à l'autre côté, des attitudes qui ne sont plus fondées sur la nécessité de la survie et qui manifestent uniquement le maintien d'une violence prédatrice devenue inutile et dangereuse. Ah voilà, donc ça c'est un peu ça, que c'est, tout, c'est un peu les deux arguments en mode, bon, la chasse finalement, est-ce que c'est un truc qu'on pourrait s'en passer ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est apparemment, enfin qui est aussi utile. Et figurez-vous que, comment dire, l'être humain est aussi une forme de prédateur plus maintenant, mais à l'époque, dans le sens où bah justement il pouvait réguler les espèces prédatrices qui, par exemple, s'il y a trop de prédateurs, ça mange trop de gibier, bah tu vas avoir moins de gibier, donc tout l'environnement va prendre un coup. Bah, des fois il y avait un vrai côté régulateur d'animaux qui n'est plus du tout valide à l'heure actuelle vu que c'est de l'élevage, mais je pense que jusqu'à un certain seuil les chasseurs étaient vraiment utiles pour justement faire de la... Bah, y participer au cycle de l'environnement, quoi. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux sur la réalité et plus à l'heure de débattre sur... oui ou non, on peut continuer les traditions. Ici, la chasse, comme si rien ne s'était passé. Ouais, non, clairement, je suis d'accord avec toi. Sans prédateurs, on peut pas s'en passer, mais le gros problème, c'est les proies nourries par les chasseurs. Oui, c'est pour ça, exactement. C'est pour ça qu'il faut tout repenser, tu vois. Mais il faut pas non plus avoir le discours trop débile en mode « Ah non, ils sont juste là pour tuer des animaux, ils servent à rien, tu vois. » Bah non, finalement, les chasseurs ont aussi une importance de... Bah, et c'est eux qui permettent à peut-être la dissémination de certains trucs. Enfin, ça reste quand même des gens qui naviguent dans l'environnement, quoi. Donc ça reste des gens utiles pour plusieurs choses, quoi. Si l'exploitation industrielle, aussi bien que l'agriculture intensive qui marque notre relation à la nature, trouve leurs origines comme le mode de production capitaliste dans l'histoire de l'Occident... L'anthropologue remarque qu'on se tromperait si l'on imaginait que les groupes humains qui semblent le plus étrangers à ce monde de vie entretiennent par contraste des relations purement harmonieuses et contemplatives avec les êtres qui les entourent. Voilà. Pour se nourrir, pour fabriquer leurs vêtements, pour édifier leurs habitations et les chauffer, les peuples autochtones tuent des animaux, abattent des arbres, détruisent des milieux. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut garder. Oui, oui, bien sûr, Pépin Jouessard, là, on est clairement d'accord. Pour tout ce qui est bourgeois et faire ça pour le plaisir, ça dégage, tu vois. Mais par exemple, voilà, en gros, tout ce qui est récupérer de la peau, faire de la... de se nourrir et compagnie, bah, ça a une importance. Et c'est ce qui est intéressant, c'est, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, c'est les familles des peuples autochtones du Brésil qui, quand ils tuent une mère, récupèrent les enfants et en fait élèvent les enfants du gibier jusqu'à leur âge adulte et les remettent dans la... Enfin, en fait, les laissent en aller quand ils veulent, mais en gros, ils les aident à les nourrir jusqu'à leur âge adulte, leur sevrage, entre guillemets, voilà, pour dire. Et du coup, bah, y a cette relation vraiment animal-humain, enfin, animal-humain et animal-non-humain, qui est presque intime, malgré le fait d'avoir tué la mère pour se nourrir, quoi. On voit que les animaux sauvages peuvent clairement s'autoréguler, loup, renard. Oui, oui, bien sûr, Carcos, ça, on est clairement d'accord qu'ils peuvent vraiment s'autoréguler, ça, c'est sûr, hein. Mais des fois, tu sais, t'as des moments où, je sais pas, par rapport à, t'as des moments propices où une espèce va monter d'un coup, bah là, l'être humain peut être utile pour réguler, tu vois. En fait, il fait partie de celui qui va réguler. Après, est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est utile, vu l'état de la dégradation de notre territoire? Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, c'est encore utile. Mais il y a eu un certain moment, ça pouvait l'être, quoi. Attends, du coup, qu'est-ce que tu dis? Mais ils servent à que dalle, les gens. Oui, ça, c'est ce que tu dis, ok. Juste, bam, sociologiquement, la chasse dans le monde rural est un moyen de socialisation, même si la chasse ne donne rien. Le but est de retrouver avant tout. De se retrouver avant tout. Ouais, ça, t'as raison, Jérémy, d'en parler. Et de le dire, parce que c'est vrai que ça, j'aurais peut-être pu m'éloigner de ce point de vue-là. Et t'as vraiment raison de le préciser. Il y a aussi ce côté-là. Dans les campagnes, bah, c'est une forme de socialisation, c'est une forme de retrouver des. C'est ce fameux truc de camaraderie, de fraternité et compagnie. Donc oui, après, est-ce qu'au final on a besoin de la chasse pour faire ça? C'est ça aussi qui est intéressant. Et où là on peut aussi re-questionner, est-ce qu'on a besoin de la chasse pour retrouver la socialisation, pardon? Bah là je suis pas sûr, tu vois. Je pense qu'on peut trouver des nouvelles manières de se sociabiliser. Mais c'est intéressant comme point de vue, merci Jérémy. Les formes et surtout l'intensité de la prédation ne sont plus les mêmes. Cela va de soi, mais il est nécessaire de le rappeler. Ce fait pour éclairer les formes de relation à la nature dans le monde contemporain où le capitalisme existe à l'état global. L'anthropologie nous évite de sombrer dans l'illusion d'un univers autochtone parfaitement intégré à l'écosystème, l'illusion qui est au principe de nombreuses représentations de l'écologisme ou du véganisme, végétalisme populaire. Ouais, ça, je suis d'accord aussi avec ça. En mode, la vision, l'être humain est un peu le virus, il faut laisser les animaux tranquilles, nanana. Non, les gens, on fait partie de l'environnement. Bref, vous connaissez ceux qui étaient déjà là. Je vous mets la chaîne YouTube. On fait partie de l'environnement, on fait partie des cycles. C'est pas parce qu'on tue un animal ou on coupe un arbre qu'on est problématique, en fait. C'est le système qui fait que ça devient problématique parce que c'est fait à des termes où l'environnement n'a pas le temps de se restaurer. L'expansion de la chasse en France au milieu des années 1970 a suscité un certain nombre d'analyses sociologiques qui portaient avant tout sur la transformation rapide des usages de l'espace rural, marquée par une concurrence accrue entre les pratiques et la décroissance rapide des formes paysannes traditionnelles de son exploitation. De plus en plus de chasseurs devraient se partager un espace de moins en moins propice au maintien d'une faune sauvage, qui trouverait ses conditions de reproduction le plus favorables dans les espaces bocagers, alors remembrés et pâtissés lourdement de la mécanisation de l'agriculture. Ah putain, et on retombe encore sur nos pattes de l'agriculture, hein. Comme quoi, vraiment, c'est, j'ai l'impression, le cœur du problème, Révolution Verte, hein. C'est vraiment un des cœurs du problème de l'Occident. Enfin, un des cœurs. Plus de chasseurs pour moins de gibier et l'apparition soudaine d'une figure autrefois impensable dans l'espace rural, l'opposant à la chasse. On retrouve une bonne partie de ces traits dans l'enquête ethnographique de l'auteur, alors même qu'en un demi-siècle, la population des chasseurs s'est réduite de plus de moitié, et même de deux tiers dans certains secteurs, à l'inverse de leur ennemi qui ne cesse que de croître. Après, il faut aussi garder en tête, les gens, il y a combien de personnes qui meurent à cause des chasseurs. Et en fait, moi, je serais presque anti-chasse, pas pour l'être humain, pas pour les animaux, mais presque plus pour les êtres humains, en fait. Il y a plein de gens qui se prennent des balles, etc., alors qu'ils n'ont rien demandé. Et ça aussi, il faut un peu questionner comment on fait pour avoir des lieux de chasse régulés, et comment on fait pour des gens qui n'y connaissent rien, qui vont juste se balader et prennent des balles par mégarde. Je pense qu'il y a quelque chose à se questionner et à ne pas tomber dans des travers en mode être forcément pro ou forcément contre. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir, quoi. Trop de gens qui meurent à cause de... Ouais, voilà, ça. Et moi, je pense que mon premier point de désaccord, ça serait mal... Enfin, bien sûr, quoi, ça serait ce sujet-là qui m'affecte trop, en fait. Je trouve ça inadmissible qu'on puisse encore continuer la chasse alors qu'il y a une régulation qui est pas bien faite. Et ça, c'est comme disait Commise, hein, c'est peut-être dû au fait que c'est pas bien régulé, hein. Oh non, Celtic, là tu déconnes, tu peux pas dire ça. Non, en fait, tu peux arriver dans une forêt où t'as pas vu le panneau et tu te fais tirer dessus par tes gardes, tu vois. Déconne pas avec ce genre de choses, Celtic. En fait, dis-toi juste, Celtic, ça pourrait t'arriver à ta famille. Genre, ta famille pourrait se balader en forêt et se faire tirer dessus. Genre, vraiment, réfléchis avant de lâcher des dingueries comme ça. Il tire même sur des TGV maintenant. Ah ouais? Ouais, vas-y. Pourtant, l'auteur ne s'en tient pas à une ethnographie localisée qui occupe l'essentiel de la première partie, mais élargit le point de vue dans la deuxième partie qui remonte aux origines, ce qui suppose évidemment une dimension conjecturale. Charles Stepanov parvient à livrer un point de vue général sur la superposition de savoirs pratiques, d'affects intenses, mais aussi d'éthique et de relations au pouvoir qui constituent la chasse. Oh, c'est intéressant la relation de pouvoir. Présupposant le fait que l'on peut parler au singulier d'une pratique qui a pris des formes très diverses au cours de l'histoire. Oh, c'est intéressant ça, oui. En fait, oui, ne pas dire la chasse, mais peut-être dire les chasses. Ça, j'aime beaucoup l'argument là. Dommage que je peux pas le flouter parce que je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis resté au VTT, moi. Ouais, puis t'imagines, même VTT, tu peux te faire prendre une balle, quoi. Un voisin de ma belle-mère est mort alors qu'il repeignait sa façade à cause d'un connard de chasseur. Oui, voilà, et en vrai, je comprends ton affect, Pépin Jouessard, sur le coup, là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que c'était chaud ce que j'ai dit, c'est trop noir pour être repris pour de l'humour, je m'excuse. Ah, t'inquiète, pas de soucis, mais ouais, en vrai, évite de lâcher des trucs comme ça, parce que moi, je prends tout premier degré en plus. Et voilà, évite de dire un peu des trucs comme ça. La troisième partie porte sur le rapport compassionnel dont l'auteur montre bien qu'il n'est pas le monopole des amoureux contemporains de la nature et qu'il était d'abord très puissant à l'intérieur des mondes de la chasse. L'anthropologie a ici pour fonction de mettre en question les divisions binaires qui situent d'emblée les chasseurs dans le monde de la violence prédatrice et de la cruauté. Putain, c'est intéressant ça. C'est de règles éthiques qu'il est en question tout au long de l'histoire de la chasse. Il n'en reste pas moins que la pratique est effectivement constituée par l'exercice de la traque et de la violence meurtrière. Bah, j'avoue, dit comme ça, tu vois, t'es en mode bon. Ça fait un peu hardcore, quoi. Dit comme ça, j'avoue, la traque, violence et tout. La fin du jeu est toujours la mort de l'animal, mais celle-ci doit être comprise à partir de ce que l'auteur nomme une métaphysique de la prédation, au sein de laquelle les pratiques de poursuite et de meurtre de l'animal ne s'en prennent leur sens que si l'on identifie l'ensemble des représentations symboliques et des règles morales qui le constituent comme fait social dans une société donnée. C'est intéressant comme point de vue, ça. Il y a une chouette émission des pieds sur terre sur un mec victime d'un chasseur. Ça fend le cœur tellement c'est triste. Putain, ouais, ça peut être aussi ça. Alors, des chasseurs comptables de la biodiversité. La première partie qui se développe à partir d'un remarquable compte rendu d'enquête est tout à fait saisissante car elle est approfondie les constats que nous avons pu faire en sociologue au cours des dernières demi-siècles. Ici, l'observation soutenue et la connaissance du terrain constituent les ressources incomparables. Putain, je commence à avoir du mal à lire. L'érosion de la biodiversité, qui atteint aujourd'hui des proportions dramatiques, est perçue avec acuité par les chasseurs ruraux, qui tendent à voir dans le rapide dépeuplement, lequel est loin de concerner uniquement les espèces chassées, un délitement de leur monde familier, selon l'auteur. Oh, c'est intéressant ça, le délitement du monde familier, en mode, bah, c'est notre territoire, il disparaît, quoi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, les dégâts. Tu vois, c'est intéressant ce côté. Notre territoire disparaît, on perd notre présence, enfin notre culture, notre histoire et compagnie. J'aime beaucoup ce rapport-là, même s'il peut être critiqué, bien sûr, mais pour le coup, là, lié à l'écologie, je le trouve intéressant. La raréfaction ou la disparition d'insectes volants, de salamandres ou de rainettes est ressentie comme la perte des cohabitants qui peuplent la vie quotidienne des humains. Ok. Les entretiens montrent avec une forme particulière la conscience vive de ce dépeuplement et de la solitude qui s'ensuit pour les humains. Ah, ça va être trop intéressant le côté la solitude sur les territoires, en mode bon bah finalement il n'y a plus que nous et on s'emmerde un peu, tu vois. Je trouve ça intéressant comme point de vue ça. En une série de chapitres centrés sur des espèces, la perdrix, l'hirondelle, le sanglier, le renard, le cerf, le chien, mais aussi sur des formes de construction du paysage, qu'il s'agisse des haies ou des techniques de production du gibier, qui ont largement artificialisé les conditions de la pratique de la chasse. L'auteur saisit l'ampleur des transformations qui ont affecté l'espace rural où règnent désormais les exigences de la production intensive de plus en plus défavorable à la faune sauvage et partant à l'exercice de la chasse. Ah, il a l'air d'être trop bien son bouquin en vrai. La salamandre aussi trop. Ouais, de. Son bouquin, il a l'air d'être incroyable sur le sujet de la chasse. Le chasseur n'est pas le responsable du déclin de la biodiversité, mais il en est le témoin le mieux informé. De ce fait, certains agriculteurs chasseurs se mettent à l'agriculture biologique à partir de leur expérience de la chasse, qui leur permet de constater l'ampleur du désastre sans qu'il soit besoin de recourir à l'appareil statistique. Putain, et vous voyez comme quoi les affects, hein. Genre là, on critique et tout les chasseurs, mais comme quoi là, t'as un affect en mode, putain, je vois ma terre dépérir, je vais me convertir en agriculteur biologique parce que l'environnement prend trop cher. Je trouve ça très intéressant, cette vision-là. Vraie sale comme les pêcheurs qui se mettent à nettoyer les rivières car ils se rendent compte que c'est turbo-pollué. Ouais, vous voyez comme quoi, en fait, faut pas jeter la pierre à... C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention quand on critique des systèmes comme ça. On dit oui, les pêcheurs, mais c'est aussi bien de temps en temps de dire, non, enfin, la structure des pêcheurs. Parce qu'en vrai, eux, c'est des individus, soit qui sont full aliénés, soit qui sont peut-être pas aliénés, mais qui ont conscience de ça, mais qui sont en mode, bah, en fait, moi, je suis pris malheureusement dans ce système-là, j'essaye de survivre. Et donc, oui, je participe à ce système malgré moi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est intéressant de pas toujours jeter la pierre, notamment sur les agriculteurs, par exemple, et de bien penser au fait que, ils sont pris dans un truc qui leur est plus gros qu'eux, quoi. Ah oui, tiens, je viens de voir le Streamlab, là. N'hésitez pas à lâcher votre Prime ou un sub ou des dons si le contenu vous plaît. Chemin faisant, l'auteur analyse avec prévision les cosmologies paysannes qui informent les rapports des habitants à la nature. Elle associe les représentations d'une constellation de relations avec des savoirs pratiques greffés sur l'observation régulière des phénomènes naturels. Ainsi, l'hirondelle, dont on pense qu'elle a essayé d'arracher les épines plantées dans la tête du Christ, est considérée comme un oiseau dont le nid porte bonheur car elle est réputée de ne pas manger les grains dans les champs de blé, dans les champs cultivés. Moi, je savais pas ça. Ce qui apparaît avec beaucoup de relief, c'est l'importance du travail de catégorisation morale et l'insertion de l'acte violent dans un réseau de justifications qui permettent d'accepter de manger ce qu'on tue. Ah, ça c'est marrant ça. Genre en mode, oui bon, on tue un truc machin, donc il faut bien le justifier, donc voilà. Et ça je trouve que c'est intéressant aussi, même la vision de comment on fait pour manger un truc qu'on tue de notre propre main, tu vois. C'est des chrétiens beaucoup qui disent, oui les pêcheurs, ah t'es con. La pratique est contenue par l'auto-limitation des prises. Le chasseur de subsistance, qui est encore aujourd'hui plus qu'une survivance ou un anachronisme, est réglé par une logique de frugalité que l'image du chasseur viandard qui peut qualifier des formes de chasse artificialisées où le gibier d'élevage est libéré peu de temps avant d'être tué, contribue à occulter. Voilà. Et bien du coup, moi je suis vraiment pour la chasse de l'auto-limitation. Ah non, la chasse de subsistance, voilà. Ça, moi je suis vraiment pour ça. Je trouve que c'est important. Enfin, ces gens-là, faut pas leur cracher dessus, ça. C'est pas eux les plus fautifs. L'auteur ne se situe jamais dans la thématique de la justification de ces pratiques au nom de leur modestie prédatrice ou de l'intensité des savoir-faire mis en œuvre. Il les éclaire de l'intérieur parce qu'il prend au sérieux leur économie morale et leur insertion dans une cosmologie que les urbains ne peuvent pas reconnaître comme telle. Oh, c'est marrant ça, la dichotomie urbain, c'est ça on dit dichotomie, hein. La dichotomie urbain, citadin urbain et campagnard. Le monde de la chasse paysanne est un monde qui meurt. La pratique y décline régulièrement en un nombre croissant de chasseurs l'abandonne au cours du cycle de vie, alors qu'elle ne s'interrompait qu'au moment où l'état de vieillissement la rendait physiquement impossible. Parallèlement, le chasseur est aux avant-postes pour constater la mort d'une forme de familière de nature qui n'est en fait que le doublé de sa propre mort. Le discours justificatif des chasseurs ruraux est très éloigné de la rhétorique officielle des institutions de la chasse censée centrée autour de l'idée selon laquelle la prédation est un mécanisme de la nature. Oh, c'est intéressant ça! Ce qui revient à intégrer le chasseur dans l'écosystème entendu comme chaîne alimentaire. Alors moi, cette tech-là, elle est importante. Alors, peut-être pas en France, hein, mais dans certains pays, c'est une tech qui est importante. Donc, il faut attention pareil sur ce genre de discours. C'est le sketch inconnu qui montre bien les chasseurs qui tuent les animaux d'élevage. Ouais, le fameux, là, le bon et le mauvais chasseur. Oui, de ouf. Avec la perdrix. Non, avec quoi? Je sais plus c'est quoi l'animal qui chasse, là, mais... C'est quoi ça, Vinali? Si... Si Paris pleurant son cerf, musée de Strasbourg. Ok, je connaissais pas. Oui, sauf que là, l'arnaque, c'est que c'est l'argument employé par des institutions de la chasse. Oui, exactement, les négois, on est d'accord. C'est bien ce que... Oui, t'as raison de le préciser. Mais oui, l'institution. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux trucs institutionnels, hein, globalement. La galinette cendrée. Tu as pas mal aussi anciens chasseurs qui sont devenus photographes animaliers. La technique de photographie animalier leur rappelle la chasse. Oh! C'est intéressant, ça, Carcos, comme vision. Ouais. Merci du truc, j'avais pas tilté. Ouais. Autrement dit, le lobbying de la chasse en mode... Mais c'est nous, on fait la chasse de subsistance. Oh là là, on est des gentils chasseurs, cueilleurs. Oui, exactement, ouais. Ça, clairement, niquez-vous, bien sûr. Attends, je vais le noter, t'as raison. Faut préciser ça. Et oui, bien sûr, tout ce qui est lobby et tout, ça... Ah mais non, merde, je peux pas le noter. Ça dégage. C'est limite de la réprobation culturelle, c'est vraiment des bâtards. Ouais, puis même, c'est un manque de respect pour les vrais chasseurs de subsistance, bah, qui sont justement les vrais... Enfin, les vrais beaufs, entre guillemets, tu vois. Ceux que, bah, finalement, personne n'écoute et qui sont les premières victimes de ça, quoi. Tu veux pour manger, je suis d'accord, mais après, il y a la chasse comme pratique sportive, je ne suis pas d'accord. Ouais, je suis clairement d'accord, Mephisto, je suis un peu d'accord avec toi. Vraiment, tuer pour le plaisir de tuer, ça dégage. Par contre, bah, tu sais que tu y a un gibier, genre, t'as besoin d'un sanglier, tu tues un sanglier, ça va te garder pendant 6 mois de la bouffe, bah, let's go, tu vois. Enfin, 6 mois, j'en sais, peut-être que j'ai une bêtise, mais... Il y a aussi un point à éclairer, la chasse n'est valide que si la proie a une chance de s'enfuir. Ah ouais, ça, c'est peut-être un point de vue de chasseur, ça, je connais pas assez, mais c'est peut-être possible, ouais. Conférer à l'animal des traits humains ne gêne en rien les ruraux. Après, pardon, Celtique, je suis en train de tilter, mais le côté la chance de s'enfuir, c'est là, c'est pour le coup, c'est de la chasse de loisir, je suppose. Parce que si tu chasses pour te nourrir, en vrai, bah, tu peux faire des pièges et tout. Hein. Le grand cerf et le pépère, pardon, le grand cerf et le pépère et le sanglier prend le trait du patron. Il y a plus. Le comportement des animaux conduit les chasseurs ruraux à prêter aux animaux sauvages une organisation sociale, mais aussi l'intelligence et la capacité d'apprendre et de transmettre, ainsi que de manifester des émotions dont la plus intense est sans doute celle des larmes du cerf, lorsque le grand animal constate que la partie est perdue. Waouh, non mais yo, mais ça, moi, je peux pas faire ça, en fait. Genre, j'assiste à ça en vrai, je crois que je fonds en larmes. Charles Stepanov, il voit la rémanence d'un animal... un animisme prémoderne qui apparente la population de la périphérie parisienne aux chasseurs autochtones de la Sibérie ou de l'Amazonie. C'est intéressant, ça, l'animisme moderne. Pour autant, l'anthropologue n'abandonne pas les constats de sociologue avec Jean-Claude Chamboredon. Nous avions insisté sur la dimension de lutte des classes qui sous-tendait les affrontements autour de la chasse. L'auteur confirme ce point en concluant que la modernisation menée par la révolution gestionnaire a été une lutte des classes cosmologique. En mode, c'est les bourgeois, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, hein, c'est les bourgeois qui ont amélioré les techniques de chasse et du coup ont mis de côté les prolos, quoi. Oui, autrement dit, c'est un non-sens vu que c'est du point de vue de la chasse du loisir. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Mettre un piège fait partie de la chasse. Ouais, mais du coup, si tu mets un piège, le truc, il peut pas s'enfuir, donc ça contredit ton point de vue, tu vois. Le sauvage et le pouvoir. Les deux dernières parties de l'ouvrage, fondées sur une réflexion historique et éthique, sont sans doute moins spectaculaires que la première, dont la vigueur ethnographique et la puissance analytique produisent de constants bonheurs de lecture. En s'interrogeant sur des théories explicatives de la chasse, des origines à nos jours, l'auteur nous fait rentrer dans un univers hautement spéculatif, où les thèses sont souvent informées par des oppositions et des modes de catégorisation contemporains, comme l'opposition entre l'homme chasseur et la femme cueilleuse. Quoi ? Ah ouais, mais d'où ça fait ça ? Genre, la meuf, elle veut pas être chasseuse. L'association de la chasse et du pouvoir paraît constituer une piste historique plus solide. Sa pratique est consubstantiellement liée à l'exercice de la domination dans des configurations très diverses. C'est l'occasion pour les puissants de manifester leur qualité athlétique et leur capacité de réaliser des exploits inaccessibles à l'homme du commun. Ok, ouais, donc le rapport aussi de force, la virilité, etc. Que s'appellerait le patriarcat, exactement, hein. La chasse est le symbole et aussi l'un des modes d'exercice de la violence légitime. Oh, c'est intéressant ça. La pratique illégale de la chasse constitue une menace dirigée explicitement contre le pouvoir du principe. L'auteur multiplie les exemples de répression féroce aussi bien qu'il montre l'indignité de la chasse paysanne fondée sur le piégeage, activité vile qui constitue l'envers mais aussi la symétrique de la chasse noble qui tire son efficacité symbolique de cette opposition. Ah, vous voyez, c'est intéressant ça. En mode, ah là là, les paysans qui se nourrissent, ils font des pièges, donc c'est des tocards. Alors que nous, bons bourgeois, on fait justement de la chasse de loisirs où l'animal peut s'enfuir. C'est intéressant cette binarité-là. La femme chasse ou pas? Bah, bien sûr que la femme elle peut chasser, bien évidemment que les femmes elles chassent. À l'époque où la chasse était réellement un moyen de subsistance vitale, c'était interdit de réserver et réservé aux nobles. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui rend ouf, c'est que bien sûr que la chasse, c'est aussi des pièges qui, quand tu dois bouffer pour bouffer, tu fais tout, en fait. Genre, les pièges, même les techniques pas très, qui peuvent paraître pas très morales, voilà, quoi. Pareil, dans la chasse à cour, dans ma région, les bourgeois embauchent des membres du bastion social, orga fasciste, pour rabattre le gibier. C'est toujours lié. Ah, oh, putain, quel enfer. Non, mais oui, après, les gens, et la chasse bourgeoise, ça dégage. Genre, niquez vos mères, tu vois, on est d'accord. Hein. On retrouve cette logique dans la condamnation de la chasse populaire au moment où la définition du souverain impose la vision d'une société auto-instituée. La bourgeoisie prend ainsi le relais de l'aristocratie après la Révolution française pour condamner les manières de chasse de peuple au rebours de la dimension de conquête sociale qu'avait revêtue la fin du monopole de la chasse par la noblesse. L'auteur met au jour l'étonnante continuité de la rhétorique stigmatisante fondée sur l'image d'un paysan prédateur et retors. Et voilà! Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on retombe toujours sur nos pattes en mode, ah bah tiens, c'est les prolos qui détruisent la nature, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Du coup, les prolos, on leur empêche de chasser, on les met à acheter de la bouffe au supermarché, pendant que les bourgeois, eux, ils ont la possibilité de chasser, même pas pour bouffer de la viande, mais pour leur plaisir. Et c'est trop intéressant, parce qu'en fait, dans tous les systèmes qu'on a étudiés pour le moment sur ma chaîne, à chaque fois, c'est les mêmes trucs qui sont mis en place. Il faut voir une modalité particulière d'un processus de très longue durée qui remonte à la fondation des premières cités-États. La protection de la faune, de la nature, a été progressivement retirée aux habitants pour être érigée en prérogative politique. Ah voilà. Et c'est ça, voilà. Et en fait, c'est comme d'hab, on retombe là-dessus. En mode, ah mais non, regardez, il faut protéger la nature. Donc on crée des institutions pour la protéger. Et on met, bien sûr, bah, vu que l'être humain détruit la nature par sa propre habitation, on repousse les habitants de leur lieu de vie. On les exproprie, on les rend apatrides et on les empêche de vivre leur vie pleinement et on les met dans un système qui les aliène, les exploite, etc. Toujours les mêmes méthodes. Est-ce faire preuve de malice que de suggérer que la mobilisation actuelle pour l'environnement s'inscrive dans cette perspective historique longue? Et du coup là, je comprends la question et je suis presque d'accord. Alors, en fait, je suis presque d'accord si on critique tous les chasseurs. Là, par contre, je suis en désaccord si on fait bien une limite en mode critique du chasseur de subsistance et critique de la chasse de loisirs et genre tout ce qui est glu et compagnie, ça dégage. La dépossession de la maîtrise de leur pratique dont étaient l'objet les chasseurs, étudiée par Charles Stepanov, est plutôt synchrone avec l'émergence d'une politique de l'environnement institutionnalisée dans l'ensemble du monde occidental autour de 1970. L'auteur ne le dit pas, mais le lecteur imaginatif se doit d'attirer l'attention sur ce point. Ah, mais vous voyez? L'auteur imaginatif qui a commencé à lire beaucoup de sujets à ce niveau-là commence à connecter les points. Let's go les gens! Et on continue les monocultures et la bétonisation par contre. Oui, c'est ça, exactement, Carcos. Et c'est comme, bah tu sais quoi, Carcos, c'est un peu comme pour ceux qui l'ont vu, le Arte Regard d'hier sur l'Irlande. C'est un peu en mode, oui, bon, on va emmerder les chasseurs, comme ça on n'a pas besoin d'aller emmerder les entreprises qui font tout ça. Bah finalement, c'est les chasseurs les problèmes, tu vois. Bah non! Désolé, mais c'est les usines qui font de l'élevage pour de la chasse, c'est les gens qui polluent avec l'extraction de pétrole et compagnie. Genre, bien sûr qu'il faut arrêter d'échanger à chaque fois les trucs de valeur. Même si, comme disait Jérémia, c'est important de questionner tout ça. Éthique de la chasse. Alors ça, c'est quoi? Vision de Saint-Eustache. C'est marrant comment les animaux ils sont représentés. L'ouvrage s'achève par une réflexion sur les affrontements éthiques qui caractérisent l'univers cinégénétique. Conformément à sa méthode, il ne se limite pas à ce qui fait l'actualité d'un conflit qui voit la crise de légitimité de la chasse s'accroître en même temps que le poids électoral de ses pratiquants semble se maintenir. La question du caractère éthique de la chasse plonge ses racines dans des profondeurs de l'histoire. Les rapports aux animaux ne sont jamais réductibles à la logique de la simple prédation. L'ensemble de l'ouvrage est construit contre la vision fonctionnaliste de la chasse. C'est-à-dire quoi, fonctionnaliste? Contre la vision fonctionnaliste de la chasse? C'est vers l'étude des fondements philosophiques, mais aussi sociologiques, de la chasse que l'auteur s'oriente pour conclure son investigation. Au cours du Moyen Âge, on compte un nombre d'ermites qui ont sauvé des animaux de la poursuite des chasseurs. Ils ont d'ailleurs été souvent nourris par des animaux, des biches, mais aussi des aigles. Attends, au cours du Moyen Âge, on compte nombreux d'ermites qui ont sauvé des animaux de la poursuite des chasseurs. D'accord, ok. Utilitaire, je dirais. Ouais, c'est un peu la vision que j'ai, ouais. Mais comment tu fais pour faire une chasse de subsistance si tu ne fais pas un peu de chasse sportive? Il faut bien pratiquer pour apprendre. Bah non, pas forcément. Je vois ce que tu veux dire, mais pas forcément. En fait, juste tu fais de la chasse de subsistance. C'est pas parce que tu ne ramènes pas de gibier que c'est forcément du sportif, tu vois. C'est juste que bah les premiers mois tu vas pas ramener de gibier, mais t'auras quand même, tu seras quand même parti sur une vision de je chasse pour me subvenir à mes besoins. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire. Je vois ton point de vue, l'intéressant. Mais je pense que voilà, c'est pas parce que tu n'as pas de gibier que tu n'es pas un chasseur de subsistance. L'auteur y voit une sacralisation du sauvage à travers la protection d'une figure religieuse qui est capable d'arrêter le cours de la prédation et quelquefois de supprimer le chasseur lui-même. L'opposition entre ermite et chasseur n'est d'ailleurs pas propre à l'Occident. Un autre type de religieux s'oppose aux activités du chasseur, mais pour toute autre raison. Il s'agit du moine. Celui-ci défriche et rétrécit de ce fait les territoires de chasse. Il exploite les animaux pour les ressources économiques qu'il offre, particulièrement la laine. Oh, c'est intéressant cette vision-là. C'est le mythe de l'ermite protecteur de la nature, soit humain, soit lié de l'événement surnaturel, souvent une façon de justifier l'échec face à la chasse d'un gibier. Ok, intéressant. Merci beaucoup. Les clercs s'opposent donc à un pouvoir seigneurial en tant qu'ils y récusent la valorisation du sauvage par les hommes de pouvoir. Ils développent en conséquence une rhétorique anti-chasse qui fait des chasseurs de mauvais chrétiens parce qu'ils participent à leur folle passion à l'heure de la messe. Ah tiens. Charles Stepanov voit dans les figures antithétiques de l'ermite et du moine les archétypes originaires de formes de traitement du monde sauvage qui sont épanouis à l'âge moderne. L'ermite incarne à la fois la défiance envers la civilisation et la protection du milieu sauvage contre les prédateurs humains. Le moine est porteur d'un projet d'exploitation de la nature, s'inscrivant dans une perspective de progrès civilisationnel. Oh, j'aime beaucoup ça. Le moine est porteur d'un projet d'exploitation de la nature, s'inscrivant dans une perspective de progrès civilisationnel. En mode, oui, bon, en fait, le moine, c'est un bon occidental qui va perpétuer qui va perpétuer en gros l'esclavage et la colonisation sous couvert de la civilisation, quoi. J'aime beaucoup l'argument. J'ai appris la couture pour rafistoler mes vêtements de sport. Je me suis entraîné sur des torchons avant. Je continue à coudre sur des bouts de tissu pour affiner ma pratique et ainsi mieux réfléchir mes vêtements quand j'en aurai besoin. Ouais, mais c'est-à-dire, regarde, tu fais pas ça de manière loisir. Quand tu as cousu sur des torchons, tu as quand même cousu de manière à coudre, à apprendre à coudre dans une optique de rendre ça utile. Donc peut-être que toi tu vas considérer comme du loisir, mais pour moi, tu étais déjà dans une optique de faire une forme de travail, ou en tout cas de subsistance, tu vois. Après, c'est mon point de vue, mais pour moi, tu es déjà dans une optique de faire cette activité-là pour améliorer ta vie plus prochainement. Donc même si tu rates, ou que toi t'en prends une forme de loisir, bah t'es quand même dans l'apprentissage. Salut Tiffen, hein, ça va bien. Il existe d'autres formes historiques de l'hostilité à la chasse. On en trouve dans de nombreuses mythologies des peuples autochtones qui mettent en scène le caractère ambivalent de la prédation. Le chasseur peut incarner l'excès de la passion meurtrière, comme dans l'histoire du chasseur qui tombe amoureux d'une redoutable femme animale qui le tue après l'avoir séduit. Oula! Ça a l'air patriarcat corse. Le chasseur peut être englouti dans le monde sauvage ou au contraire tué par inadvertance un humain dont l'enveloppe corporelle prend une forme animale. Ah d'accord, pardon. Ça c'est intéressant ça. Je crois que c'est un peu tout ce qui se passe avec l'animisme. Enfin, j'avais lu ça dans Descola quand il parlait de l'animisme, justement. Putain, j'ai loqué. Au départ c'était utilitaire et ça a dévié sur de loisirs après. Ok. Le mythe du loup-garou du coup, galou. Enfin, mythe du galou ou du loup-garou, du ça. Allez, genre, j'arrive plus à parler. Mythe du galou, je connais pas. Louis le galou, c'est ça? Mythe du galou. Ah, ça va être ça, hein. Non? C'est ça? Je sais pas, je connais pas. Bon, j'aurais dit mythe du loup-garou, mais dans le doute. Alors, la conclusion de l'ouvrage revient à l'enquête de terrain pour constater les similitudes du discours des chasseurs et de celui des antispécistes. Les deux se mettent à la place de l'animal. Ah tiens, c'est intéressant ça. Il ne s'agit pas de la même place. Les premiers insistent sur la nécessité de connaître les habitudes de l'animal et ses interactions avec l'environnement. Les seconds disent percevoir de manière concrète la souffrance des animaux. Le chasseur doit contrôler en permanence son empathie, qui est nécessaire à la connaissance de l'animal, mais qui peut aussi le paralyser au moment crucial. L'antispéciste fonde sa relation sur la sympathie. Les émotions que je prête à l'animal exercent une contagion. L'anthropologue ne choisit pas une forme de relation contre une autre. Ça sera aller au-delà de sa mission. Ouais, c'est vrai que lui, il est là pour faire justement du neutre. Oui, il me dit, ok, oui, loup-garou, on est d'accord. Le grand mérite de l'ouvrage, au-delà de son évidente qualité anthropologique et de vigueur de son dialogue avec le grand auteur Philippe Descola, Bruno Latour et même Claude Lévi-Strauss, est de rouvrir le jeu et de desserrer la contrainte des oppositions binaires, bien que le regard historique en montre le poids dans les configurations morales qui caractérisent nos relations à la nature. En vrai, son bouquin, il a l'air trop cool. Le lecteur peut s'interroger sur le contenu effectif de l'injonction à habiter le vivant et à s'en nourrir, qui ferme l'ouvrage. Se nourrir du vivant, l'enquête a montré que manger le vivant, c'était toujours une affaire complexe, bordée par des interdits et des dispositifs de régulation morale. Alors, comment s'en nourrir d'une manière qui mette fin à l'éclatement de l'espace social et l'appauvrissement des mondes vécus qui caractérisent notre présente condition. En fait, moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est, pour moi, si tu as cette vision de chasser pour te nourrir, en fait, si t'es pas débile, tu vas justement respecter les cycles animaux pour que tu aies toujours un peu de nourriture. Tu vois, si tu tues tous les animaux, bah finalement, tu vas te tuer toi-même puisque tu ne pourras plus nourrir, tu vois. Donc, je pense que bien évidemment qu'il faut... Enfin, on se nourrit du vivant et on est d'accord là-dessus. Et pour moi, il ne faut pas arrêter de le faire. Il faut juste le faire de manière la plus éthique possible. Si possible, ne pas manger d'animaux. Et si possible, se nourrir de... Enfin, en tout cas, restaurer l'environnement quand nous, on enlève quelque chose, tu vois. Bonne nuit Pépin Joystar, merci pour tes messages et repose-toi bien. Et oui, on vote Nub dimanche. C'est aux lectrices et aux lecteurs de faire le travail. Charles Stepanov a fait admirablement le sien. Son livre sur la chasse permet de rendre raison des affrontements symboliques et quelquefois physiques qui structurent notre rapport aux animaux. Il constitue désormais une référence essentielle si l'on veut comprendre quelque chose à une pratique à la fois lointaine et proche, associant la relation directe au sauvage avec les formes les plus complexes d'organisation symbolique. Putain, incroyable, Charles Stepanov, Animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage. Paris, la découverte. En vrai, y a moyen que je le lise, hein. Je le trouve trop trop cool. Et merci à Rhizomatic du coup de m'avoir envoyé ça. J'ai très bon article. J'ai vraiment bien aimé, hein. Dinguerie, je me suis pris une belle claque.